Mullem, le docteur Burns. Ah, oh, voilà donc le malheureux William devenu notre pensionnaire. Oui, à dater d'aujourd'hui. L'ignoble Ralph sera pendu demain. Oui, dès l'aube. Oh, quelques minutes plus tôt. Sinon, ce sera miracle si la foule le laisse arriver jusqu'à la potence. Il ne se donne pas la joie de le mettre en pièces, lui aussi, de l'emplumer, de le flamber au pétrole et autres gentillesses. Ah, le linge, parbleu, que de meilleur, et que ce soit en présence de pareils forfaits, les froides formalités de la justice, quelles sont-elles? Parlez-moi d'une belle vengeance pratiquée par le peuple de ses propres mains. Voilà qui affirme la solidarité contre le crime. Voilà qui relève vraiment le niveau moral de la masse. Excellente pensée, bien digne de se produire en ce sage compagnie, car la présente conversation se tenait chez M. Blackwork, le directeur général du fameux établissement de santé de Lobster Hill. Il était plus de 9 heures du soir. Les fous, les agités, les furieux, les illuminés étaient relégués pour la nuit dans leurs cellules respectives. Et tout ce qui restait de gens raisonnables dans la maison, c'est-à-dire le personnel administratif, avec accompagnement de sa femme et des demoiselles, prenait comme habitude le thé chez Madame Backwork et poursuivait sa paisible causerie sur les choses du jour. Encore une fois, l'honorable réunion, au moins dans sa partie masculine, cultivait le ton bon sens autant par métier que par aptitude nouvelle et naturelle. Oui, le linge, je le déclare, allait reprendre M. Blackworth, décidément partisan de ce mode de répression. Mais la tirade fut interrompue par la voix retentissante d'un laquais annonçant une visite. « Monsieur le docteur Burns !» Il y eut dans le salon quelques chuchotements, quelques sourires et coups d'œil rapidement échangés, dont on pouvait conclure que, si le docteur en question troublait l'intimité du cercle, c'était pourtant un personnage qu'il y avait nécessité d'accueillir avec le plus d'égard possible. Un geste de M. Blackwater sembla télégraphier en ce sens une recommandation pressante au moment même où l'on vit apparaître M. Burns. C'était un homme de stature élevée et de forme vigoureuse. Sa figure mobile, noble et belle, sous une chevelure grisonnante, révélait un de ces rares savants chez qui la poésie et l'enthousiasme vont de pair avec la science. Son regard fixe et sa contraction de ses sourcils le montraient comme sous le coup d'une préoccupation grave. « Cher docteur, quelle bonne inspiration vous amène !» dit M. Blackwood, la main tendue. « Vous venez, je gage, nous demander une tasse de thé !» dit de sa voix la plus caressante M. Blackwood, qui en même temps présentait la tasse toute prête. M. Burns, les mains embarrassées par les amabilités combinées du couple Blackwood, prit la parole en promenant un salut discret à travers l'assurance ses assistances. « Pardonnez-moi de surgir ainsi à l'improviste, disait-il. Oh, vous me voyez fort agité. « Oui, j'ai à vous apprendre quelque chose de bien sérieux. »« Quelque chose de bien sérieux ? Diable, diable ! De quoi s'agit-il donc ? » demanda M. Blackwood, avec un accent de curiosité tel qu'il eût été difficile d'y découvrir la moindre trace d'ironie. « Mais il s'agit d'une atroce injustice sur le point d'être commise, et qu'il faut peut-être encore temps d'empêcher. » Il faudra que vous vous rendiez ce soir même chez la Tornay. Ciel, que se passe-t-il? Que va-t-il arriver? Interrogèrent quelques voix sur un ton de sollicitude, imitant la note convaincue de M. Blackwork. Le docteur déposa la tasse de thé sur la cheminée et tira de sa poche un exemplaire du courrier de San Francisco qu'il déplia. « Voici ce qu'on dit ce soir, dit-il. Voici ce qu'on dit après avoir fouillé les yeux l'énorme tas de prose. Dans 24 heures, Ralph sera pendu au Sandlots. Quant au mari de sa victime, le pauvre William Carey, sa raison n'a pu résister à la perte de la femme qu'il adorait malgré ses infidélités. Il est dans un état de complète démence. Les magistrats l'ont fait entrer d'office ce matin à Lobster Hill. « Mais voilà ce qu'on lit, » répéta M. Burns, tout à coup sarcastique. « Voilà ce qu'on croit dans toute la ville. Voilà ce que la justice elle-même considère comme démontré. Un homme de la plèbe devenant fou parce qu'on lui tue sa femme. Ah, ah, quelle belle histoire, et même comme elle est vraisemblable. Et quoi, docteur ? Douteriez-vous qu'il ait des maris sachant aimer ? Miaula une dame rousse à très long nez, en dardant ses petits yeux gris sur son époux, le gros économe. Oh, les minutes sont précieuses. Permettez-moi de ne pas discuter sur ce point, supplia le docteur. Non, non, ne discutons rien. Mima directement et réellement, monsieur de Nesport. Quant à moi, continua M. Burns, longtemps avant la formation du courrier, j'étais fixé sur la valeur de ce roman. Dès cet après-midi, j'avais visité dans son cabanon notre nouveau sujet, William Carey. A-t-il fin de commencer le cours de nos observations sur lui? Or, je le jure, il n'offre aucun symptôme de folie. Et l'histoire qu'il m'a contée vous terrifiera tout à l'heure. Qu'est-ce donc? Oh, dites vite! Silence, silence, écoutez! S'écrièrent les dames se rapprochant de M. Burns avec un grand brouhaha d'empressement. M. Burns s'était accoudé tel qu'un orateur à l'angle de la cheminée. Les lumières du salon convergeaient avec d'heureux effets de clarté et de demi-teinte sur les traits accentués où se lisait une extrême énergie, emprisonnée, semblait-il, dans une sorte d'impassibilité bizarre. « Quand j'arrivais près de William, commença-t-il, j'eus la preuve immédiate de sa clairvoyance. Il restait obstinément sourd aux questions de... ce bon pauvre vieux, bon, il n'est pas ici ce soir, je puis en parler librement. Vous savez bien, l'inoffensif, monsieur Schirm, que la chimère de se prétendre notre médecin-chef. Un rire, cette fois irrésistible, éclata, mais très ostensiblement, c'était sur le compte du naïf monsieur Schirm. Voilà 30 ans, pour le moins, qu'il exerce cette manie médicale. Avec la plus grande exactitude, dit M. Barstock au comble de la gaieté. Oui, et qu'il réclame à heure fixe un traitement mensuel, s'écria l'économe, dont l'hilarité secouait l'ample omnipotence. Oui, William l'avait incontinent reconnu fou, littéralement fou, reprit M. Burns, insistant sur cette bonne bouffonnerie. À mon égard, au contraire, William n'eut pas un instant d'hésitation. Parbleu, consigna complaisamment M. Blackwork. Il devina ma profession, continua le docteur Burns, et paraît vouloir me parler sans détour. Eh bien, bonne aubaine d'échapper à la corde, lui dis-je. Certes, fit-il. Oh, je tenais peu à jouer le rôle capital dans la cérémonie qui se prépare. Et puis vous voilà désormais heureux dans notre maison. Ah, vous avez de la chance d'avoir perdu la raison. Le personnage haussa les épaules de pitié, pour ma candeur sans doute. Puis, silencieux un moment, les yeux fixés sur les miens, il eut un sourire équivoque annonçant des confidences. Vous êtes un brave homme, cela se connaît. De suite, dit-il dans son jargon du peuple. Quand vous me vendriez, d'ailleurs, on ne vous croirait pas. Mais vous m'inspirez confiance. Bien, il faut que je vous délivre vite mon affaire et celle de l'honorable défunte, qui était ma légitime et portait mon nom. J'étais serrurier, ciseleur à l'époque, figurez-vous. Je repassais, pour ne pas maladroit dans le métier, je ne passais pas. Je travaillais dur, j'avais de l'ordre, et pas plus tard que 25 ans, je m'établissais si bien que, mal pour moi, pour ma propre compte. Et de ce coup-là, plus de questions sociales. Carré ouvrier ne flânait jamais sans la permission de Carré patron. Et Carré patron ne retenait pas un sou des bénéfices de Carré ouvrier. J'occupais seul une maisonnette isolée de la 150e rue, aux abords de Saint-Laus. L'intérieur ne laissait rien à désirer. À gauche, l'atelier, de l'autre côté, derrière, un beau paravent chinois, mon petit mobilier tout neuf et mes hardes de dimanche bien rangées. Là-dessus s'ouvrait une fenêtre encadrée de lierre, par où rentrait le soleil du matin. Les passants admirèrent le tableau. Je m'en vante, le jour où pour la première fois apparut dans cette verdure le jeune et frais museau de mon épousée. Que voulez-vous? J'étais allé au bal quelquefois. Elle adorait la danse. Je me plantais dans la tête qu'elle m'aimait par-dessus le marché, et voilà. Tout marcha bien, du reste, dans le commencement. On la voyait toujours assise à sa fenêtre, cousant, chantant, rêvant, comme une rentière. Au fait, sa chambre balayée à l'aurore, l'affaire d'un instant, elle n'avait plus qu'à se laisser vivre. Pendant que la soupe bouillait et pendant que je trimais à l'ouvrage dans l'autre compartiment. Notez avec cela que jamais elle ne se saisissait les doigts à la ferraille. Elle ne salissait jamais. L'étau, la forge soufflaient mes cimes et limes et jusqu'au charbon. Tout cela ne connaissait que moi. C'étaient les camarades à qui je devais d'être un homme libre et de rendre ma femme heureuse en attendant l'arrivée des enfants. Elle chantait donc et rêvait à je ne sais quoi dans sa volière, ma perruche. Et moi, toujours à l'œuvre, suant, le front baissé, je me taisais, mais il me passait comme du froid bienfaisant dans le cœur, et je ressentais une envie de remercier ou de bénir je ne sais qui ou quoi. Par exemple, plus de bastringues ni de promenade du samedi dans le sillon de la foule. à la lisière des cabarets. Je voulais du bonheur sérieux, comme un parvenu, parbleu, comme un patron. Il arrivait à l'occasion, comme employé dans des usines situées au diable, par là dans la campagne. Cela me retenait de 3-4 jours dehors. Quelle joie de revenir et de revoir au couchant du soleil, d'aussi loin que je pouvais, notre masure, moitié noire, moitié verte. Misère. Mais c'est de là qu'est venu tout le mal. Elle se tenait toujours pour le bal, ma petite reine. Et il en existait un souvent tous les soirs à quelques pas de chez nous. Madame s'y envolait dès que j'avais le dos tourné. Puis, comme par habitude, elle se remit à aimer le danseur autant que la danse. Mais cette fois, la place du mari était prise. Je fus le tour de l'amant. Elle se livra entre deux quadrilles sous ce même toit. Bon, vous avez eu le procès. Laissons les détails, vous les connaissez. Je ne tardais pas à flairer quelques manigances. Les commères avaient sur mon passage ce petit rire de femme qui vous raconte ces sortes d'affaires-là, tout comme si elle s'était criée. Un jour, je fis savoir qu'un travail hors la ville m'occuperait jusqu'au lendemain. J'avais dit vrai, et si je revins le soir même, ce fut par pure chance. C'était il y a 2 mois, l'été, par une chaleur à cuire la cervelle. Le crépuscule luisait encore assez pour qu'on pût distinguer quelques pas à quelques pas de soi. Aucune lumière dans ma maison. Mais avant de rien entendre, je devinais qu'on parlait près de la fenêtre ouverte. Il m'arrivait comme un souffle de voix haletante. Je me jetais sur le côté, je me glissais jusqu'au mur latéral et j'écoutais à l'angle l'oreille contre la pierre. « Allons, reviens, encore une fois, un tour de valse. Tu as le temps, » disait une voix d'homme. « Non, » répondait-elle, « j'ai comme un pressentiment qu'il rentrera cette nuit. »« Eh bien, moi, je retourne au bal. »« Parbleu, plus rien ne te retient maintenant, » dit la malheureuse. « Ben, je reste si tu veux. »« Non, non, sauve-toi, un dernier baiser seulement. » »« Oh, oh, j'eus la force de me contenir. » »« Je forais sur eux-mêmes ses muscles, habitué à ployer l'acier. » L'homme sortait. Je m'allongeai contre terre et je vis le profil de l'individu. C'est Ralph, le tonnelier, Ralph, le bambocheur, qui trompait sa pauvre femme en même temps qu'il souillait la mienne. Quand il fut à quelques mètres, j'entrai chez moi brusquement. D'un coup de soufflet, j'incendiai le brasier toujours couvant sous la cendre, et j'y allumai la torchère. Je passai dans l'autre salle, et je plantai le bout de résine sur la table. Clarté subite, terrible. Le lit était en désordre, et elle, la misérable, avait sur la tête son bonnet tout pomponné de fleurs. « Où donc cette guenille ?» dis-je, sans fracas. Une rage crispa sa figure. « Maladroite !» pensait-elle, en précipitant le bonnet tout fripé dans l'armoire. « J'étais allé chez les Raffenants, » trouva-t-elle comme frime. « Eh bien, répliquai-je, je ne t'ai jamais fait de reproche. Pour la question de ce soir, on en usera de même. » Elle tremblait. Bouche blanche, prête à défaillir. J'étais tout tranquille, moi. C'est drôle. Mais quoique chose horrible, quelque chose d'horrible. Il faut croire, s'annonçait dans mes yeux. William, supplia-t-elle. Ah, Ralph, répondis-je en ricanant les dents serrées. Ce nom-là résumait tout. Mais tu es fou, cria-t-elle. Niaiserie que de vouloir me tromper encore. Il était bien temps. Je la pris à la gorge et je serrai. Mais calme toujours, car il ne fallait pas d'agitation. Il ne faisait pas lâcher une phalange. Je ne voulais pas l'entendre des cris. Il était sûr que je n'aurais pas pu tenir contre des pleurs, les premiers qu'elle eût versés devant moi. Je savais très bien ce que je faisais, n'est-ce pas? Ses genoux ployaient, ses mains s'accrochaient à moi, son visage à la renverse devenait pourpre, puis d'une pâleur qui semblait verte à la lueur de la torche. Et je serrais toujours. Je guettais, vous savez, cette tranquille beauté des morts, qu'elle s'était tout d'un coup. Enfin, ses yeux me regardèrent gais et brillants, comme à travers du cristal. Un froncement de ses lèvres découvrit la pointe des dents comme pour sourire. C'était fait. Je la laissai retomber. Mais tu es fou! Sa première parole me poursuivait. Je me mis à causer, pour ainsi dire, avec la morte. Parbleu, oui, je suis fou, lui répondais-je. Je me sens comme ivre. On dirait que le diable m'a entraîné à des extravagances. J'allais, je venais, mais pourquoi? Un moment, dans l'atelier, j'excitais le feu comme si j'avais eu besoin de travailler. Je tournais, retournais dans les braises une tige de fer qui finit par blanchir. Puis je me retrouvais près du cadavre brandissant cette barre qui chassait des étincelles. Voyons, qu'est-ce que je veux? Me demandai-je. Je cherchais. Ah, le diable souffla l'idée. Oui, oui, je suis fou. Tu dis vrai, attends, ma belle, attends. Et je plongeais le fer encore rouge dans la gorge. Le sang brûlait, ne se répandait pas. C'est ce qu'il fallait. Ah, tonnerre. Il n'y a plus qu'à aller jusqu'au bout. Je marchais, je trivais comme un ouvrier en pièces. Le fer revenait toujours rouge et s'abattait sur les épaules, les coudes, les haines, les genoux. Pas de... plus de muscles, plus de nerfs. Bon, et la hache maintenant. Je frappais à la volée. En un instant, les membres étaient épars. J'empilais le tout dans le grand coffre au charbon. Et puis quoi? L'indécision me reprenait. Fallait-il brûler? Fallait-il traîner au canal? Alors je jetais un cri, la tête oubliée par terre me reluquait. Elle souriait bien plus que tout à l'heure. « Tu es fou !» Oh, le mot restait dessiné sur ses lèvres. « Merci !» J'oubliais vraiment. « Merci, ma toute belle !» Tu m'apprends ce qu'il me reste à faire. Et c'était vrai. Le plan surgissait en bloc dans mon cerveau. Tout était réglé d'avance. Je n'avais plus qu'à remuer comme une machine. J'ouvris un tiroir et je fourrai dans ma poche un peu d'or et quelques bijoux de la trépassée. Je posai la caboche sur la table et d'une seule morsure de tenaille, je lui arrachai trois dents. Elle devint du coup hideuse, ne riant plus que comme une vieille femme saoule. J'avais peur. Je l'empoignai par le chignon et je sortis. Ce que cela signifiait, oh, parbleu, vous allez voir. Je suivais l'inspiration. Je jouais le fou, puisqu'elle l'avait dit. Allons, en route. Il faisait nuit. J'allais droit au logement de Ralph, un sale grenier de la 92e avenue. À la lueur d'une chandelle, on voyait sur la table un pot de PNL et une terrine de pommes de terre bleuies par le froid. Le dîner attendait de devenir le souper. La femme était assise dans l'ombre, déguenillée, avachie, ruminant, hébétée, le dégoût de la misère et de sa solitude. Regarde! Elle se redressa et hurla d'épouvante. C'est Rolf qui a fait cela, parce qu'elle ne pouvait plus être sa maîtresse. Dis cela devant les juges. Faisons-le pendre. Nous nous mettrons et nous nous marierons après. Le démon, je vous l'affirme, dictait mes paroles et mes actes. Je ne réfléchissais plus. Sorti du Galtar, je courus au bal où le quadrille commençait, final. C'était sous une tente dressée dans le jardin d'un cabaret. Les gens du bureau d'entrée avaient déjà plié bagages et moi, passé sans obstacle, j'avais pris à pleines dents la tête morte par les cheveux. Bonne folie, n'est-ce pas? Et sans chercher, comme une bête qui sent la proie, je tombais juste à la place où Ralph, le grand maigre, se démenait jambes et bras comme un clown. Ce fut une terreur, vous pensez? Les femmes criaient, les danseurs étaient cloués au sol. Les buveurs et les ivrognes installés sur les côtés escaladaient les bancs et les tables. Ignorant tout cela, l'orchestre, perché dans sa tribune, faisait rage, joyeux de souffler, de racler, de tambouriner les dernières mesures. Ce sabbat semblait fait pour moi. J'en profitais pour danser à mon tour. Je butais du talon et de l'orteil comme on ne sait quel gigue fantasque, la tête toujours accrochée aux dents. Elle et moi, regardant, fixèrent Ralph, rapide, stupide de fureur et de peur. Lâche! Cria-t-il enfin lorsqu'il crut comprendre. Mais il demeurait raide, impuissant à faire d'un pas. J'approchais, sautillant bien en mesure, jusque sous son nez. Je me déclenchais à pouffer de rire et je le giflais à droite et à gauche et à droite, et encore avec les joues enflé du cadavre. Un dernier baiser seulement, avait-elle imploré. Je comblais la mesure. Pas une âme n'osait souffler. On faisait l'espace libre autour de nous. Désensorcelé par la fureur, Ralph s'abattit sur moi et pesa sur mes épaules. S'il m'avait plu, Jolus appela-t-il une seule taloche, ce Pierrot bellâtre? Mais non, ce n'était pas ça le plan. Je le laissais faire, et quand il parut m'avoir écrasé, la foule se jeta sur nous, puis la police du bal nous arracha des bras l'un de l'autre, me débarrassa de mon horrible fardeau, et on nous traîna, Ralph et moi, chez l'officier de police. Tout le bal, et bientôt toute la plèbe de Sandlows, nous suivait en criant « À mort !» tandis que moi, je gambadais et chantais à perdre haleine, sauf quand, tourné vers Ralph, je vociférais « C'est lui! C'est lui !» Devant le policier, Ralph se demandait dans quel rêve atroce il se débattait. Son front terreux suait l'angoisse. Et moi, je m'obstinais dans ma gaieté farouche. On ne peut plus m'en tirer. Je beuglais, je riais comme une brute. Puis encore, sur l'air d'un spectre qui chante malheur, je redisais « C'est lui, c'est lui !» Et vers lui, je tenais mes mains tremblantes, mes doigts crispés. Le docteur Burns garda quelques secondes l'attitude attribuée au personnage dont il fait, prenant cet étrange récit, faire revivre de sa voix et du regard l'ironie contenue, la férocité sonore, l'astuce sans merci. L'auditoire, en dépit d'un évident parti pris de scepticisme, se laissait gagner, et les dames, très attentives, éprouvaient les frissons d'une terreur grandissante. Un murmure d'éloge s'éleva pendant l'interruption. « Très bien, disait-on, c'est admirable, c'est vu, c'est vécu, personne ne s'imaginerait mieux. » Mais M. Burns, absorbé dans ses propres visions, n'entendait pas ce ramage flatteur. Et après un long silence, reprit-il, l'homme acheva sa confession en me disant « L'officier de police se comporta précisément selon mes calculs. Il ne manqua pas de conclure que j'étais en démence. Mais il soupçonna Ralph d'être l'auteur du crime. On l'examina, on le fouilla, séance tenante. Ah bah. Ah ah, j'en ris encore. On mit aussitôt la main sur les orfèvreries de ma défunte et sur les trois canines dont la tête grimaçait sous la lèvre crevée. Voilà le cadeau que je lui avais glissé dans la poche pendant la lutte, en simulant d'avoir le dessous. Et que pouvait-il objecter à de pareilles preuves? On l'interrogea. Son absence du bal avait été remarquée. Que s'était-il passé dans l'intervalle? Avec qui? Avouez qu'il avait affranchi mon seuil, c'était se tuer. Alors il prétendit s'être rendu chez lui en quête d'argent pour boire. Pitoyable invention que la femme Ralph eut soin, comme il était convenu, de démentir avec acharnement, plus tard au tribunal. Elle ne se contenta pas de dire vrai, mais elle broda, comme quoi, vainement, elle avait attendu Ralph à la maison, comme quoi, de plus, elle se mit à sa recherche et De loin, le vit se glisser chez William Carey. Et ce n'est pas tout. Elle avait entendu d'horribles cris de femmes qu'elle imita, s'il vous plaît, pour les juges. Ne voulant pas savoir ce qui se passait, par crainte du malheur pour elle-même, elle avait fui. Voilà ce que raconta cette honnête épouse, dont j'encourageais chaque parole par des minauderies que les magistrats considéraient comme autant de preuves d'hébétement. Il n'a pas à lui faire de reproches. Elle se vengeait comme je m'étais vengé. Par suite, l'affaire est réglée. Je suis fou, comme disait l'autre. Je suis fou, désespéré d'avoir perdu ma bien-aimée. Et telle est l'histoire authentique couchée par écrit sur papier timbré. Je vais, puisqu'on l'a décidé, demeurer ici, insouciant, oisif, engraissé jusqu'au dernier de mes jours. Ralph sera pendu demain. Rien ne peut le sauver. Quant à la dame, Ralph, qu'elle aille mendier où elle pourra. Je ne tiendrai pas la promesse que je lui ai faite. J'en ai assez des femmes qui envahissent leurs maris, qui les trahissent. Les assistants se répandirent en un nouveau cri d'admiration. Quelle habileté dans l'art d'arracher les aveux, prononçait-on très haut. Quel cynisme et quelle cruauté chez ce William. Quelle regrettable promptitude de la justice à admettre la folie. Et combien de fous aussi le docteur Burns avait-il signalé de pareilles erreurs. Monsieur Burns parut ravi de cette dernière remarque. Ses traits rayonnèrent comme ceux d'un apôtre longtemps méconnu, d'un entêté redresseur de tort, dont la parole était un triomphe. Mais cet éclair de joie s'effaça tout à coup sous les ombres d'un amer découragement. Eh bien, si vous le pouvez, tentez un effort, dit-il. Courez chez la Tornay, essayez de sauver l'infortuné Ralph. Quant à moi, ces sortes de démarches ne réussissent jamais. Et puis, vous le savez, mes travaux ne me permettent guère de sortir le soir. Ces paroles s'éteignirent comme un gémissement de lassitude et de mélancolie sur les lèvres qui s'abaissaient. On eût imaginé que 10 années s'abattaient à la fois sur le front du dormeur docteur, alourdissaient son regard et décoloraient dans la masse grise de sa chevelure les derniers fils noirs. « Vous avez raison, se hâta de dire M. Blackwork. Allez-vous reposer, c'est le plus sage. Je cours à l'instant chez le magistrat. La chose en vaut la peine. Comptez sur moi. Oui, oui, c'est le mieux qu'il y ait à faire. Rentrez, docteur, rentrez. Allez-vous remettre de vos fatigues. » Ainsi duet à l'envi les dames et les gentlemen qui témoignaient de la plus vive sollicitude et se montrèrent enchantés de ce que M. Burns, se rendant à ses astucieuses amies, prenait congé de l'honorable compagnie. Lorsque M. Burns fut dans l'antichambre, deux des laquais de service se levèrent et s'armèrent de flambeaux pour accompagner le docteur jusqu'à son appartement. On descendit le grand escalier, on traversa la cour intérieure, puis un couloir de second corps de bâtiment, et l'on se trouva dans le jardin où l'on se dirigea sous le noir des arbres vers un pavillon d'apparence élégante. Là résidait le docteur Burns, qui remercia les deux serviteurs et pénétra chez lui. Lorsque M. Burns fut dans l'antichambre, deux des laquais de service se levèrent et s'armèrent de flambeaux pour accompagner le docteur jusqu'à son appartement. On descendit le grand escalier, on traversa la cour intérieure, puis un couloir de second ordre du bâtiment, et on se trouva dans un jardin où l'on se dirigea sous le noir des arbres vers un pavillon d'apparence élégante. Là résidait le docteur Burns, qui remercia les deux serviteurs et pénétra chez lui. Aussitôt, sans témoin, les deux hommes n'envisagèrent mutuellement de façon très drôlatique, comme des comparses remplissant un ordre, une mission burlesque. Ils se recommandèrent lâchement, tacitement, le silence, entendant l'air de gestes fendants, de gestes démesurés. Puis l'un, affectant d'arpenter le gazon sur la pointe des escarpins, écarta les fourches, tandis que son complice, enveloppé de noir, barra le joint de la porte du pavillon d'un énorme verrou. Pas un bruit saisissable, pas un frémissement ne trahit l'opération. Le geôlier avait comme des mains d'ombre pour que l'incarcération du docteur fût pratiquée dans le plus parfait mystère. Ces dispositions prises, et quand on se fut éloigné d'une centaine de pas, l'un des modestes fonctionnaires de Lobster Hill sifflota d'une façon très dédaigneuse à l'égard de ce qui venait de s'accomplir. Et non moins expressif, son collègue leva les épaules à la hauteur de ses oreilles en manière de traduire le dégoût suprême d'un probe citoyen pour ce qui se commet d'injustice en ce bas monde. Pitié, parlèrent-ils en cheminant, que voilà de soins, de précautions, de délicatesse, de flagornerie pour messieurs les pensionnaires de la haute en puissance de famille fortunée. Oh oui, certes, on les cajole, ceux de cette nuance. On les traite en personnages. En effet, voyez ce monsieur Burns, ce poète détraqué qui se croit un illustre médecin. Cela passe la soirée chez monsieur le directeur. Cela prend le thé. Cela dort confortablement dans la plume. Alors que William, un gratuit, va faire connaissance avec le lit de camp. Le pauvre homme. Mais diable, il y faut songer, s'écrie l'un ou l'autre des deux causeurs. Il nous faut décamper lestement. Si nous voulons voir pendre Ralph d'un peu près, c'est pour 3 heures précises. Oh, je parie qu'il y a déjà foule.